Chapitre 5, où l'honorable président est successivement épouvanté, stupéfait et ravi. Peu de temps avant l'époque où se passe notre récit, et bien que l'Angleterre ne possédât que depuis quelques années officiellement le coin de terre qu'elle occupait en Chine, sa colonie était déjà florissante et la plus riche des comptoirs de l'Extrême-Orient. Victoria, que les voyageurs et même certains géographes persistent à appeler Hong Kong parce qu'elle est située sur l'île de ce nom, était une ville importante qui témoignait une fois de plus du génie colonisateur britannique. Il eût été difficile d'ailleurs, il faut le reconnaître, de choisir un emplacement plus propice que celui dont les Anglais se sont emparés tout autant par la force que par la diplomatie. Sur un sol aride en apparence, ils ont fait des merveilles. Dans les vallées de cette petite île de quelques kilomètres de circonférence, ce ne sont que rizières verdoyantes produisant le meilleur riz du pays, et tout le long du rivage, on aperçoit de superbes villas qui ont sur le golfe une vue féerique et que la brise du large rafraîchit de son haleine. C'est à 5 000 lieues de l'Angleterre un aristocratique canton de Devonshire. Si ce n'étaient les malheureux pêcheurs et les quelques fonctionnaires indigènes dont les palanquins croisent sur le cours les plus corrects équipages, Hong Kong ressemblerait beaucoup à l'île de Wight. Même vie confortable, élégante, même luxe de chevaux amenés à grand prix, même existence de club, c'est-à-dire même course, même pari. Les riches commerçants européens de Canton ont presque tous à Hong Kong des maisons de campagne qui deviennent souvent pour eux lieu d'asile lorsqu'ils plaident aux autorités chinoises de leur chercher querelle. Tout naturellement, Perkins y avait, comme la plupart de ses amis, une retraite charmante où il aimait à se reposer quelques jours entre chacun de ses dangereux voyages. C'était là qu'il avait invité le président de la cour criminelle à venir partager son dîner. L'honorable magistrat, malgré ses émotions et ses mésaventures de la nuit précédente, n'avait eu garde de manquer à ce rendez-vous. Il tenait d'abord à apprendre au contrebandier le nom de l'assassin de Ling, et de plus il lui tardait de savoir pourquoi il avait acheté un pendu. Ainsi était arrivé à Hong Kong dans la journée, longtemps après l'heure fixée pour l'exécution des pirates. Néanmoins, il n'avait pas trouvé le capitaine à sa villa. Il était sorti de bonne heure et ne devait être rentré que fort tard, mais il n'avait pas omis de donner les instructions nécessaires à ses gens. Ming avait donc été reçu avec tous les honneurs qui lui étaient dus, et comme Perkins possédait un cuisinier dont le mandarin faisait le plus grand cas, son premier soin fut de se réconforter par un succulent déjeuner. Revenu alors à des idées moins sombres, il s'étendit sur une chaise longue pour y attendre patiemment en fumant sa petite pipe de cuivre que son hôte fut de retour et sans s'inquiéter autrement de ce qui se passait au dehors. Victoria était cependant depuis le matin le théâtre d'un spectacle des plus intéressants, car n'ayant pas oublié que c'était ce jour-là que les pirates condamnés à mort devaient être pendus, la population, dès le lever du soleil, s'était précipitée vers le lieu ordinaire des exécutions, étroit terrain vague situé auprès du cimetière au nord de la ville. La surprise fut générale lorsqu'on s'aperçut que les bois de justice, c'est-à-dire les potences, étaient encore couchés pêle-mêle sur le sol et que rien ne paraissait disposé pour la sinistre cérémonie. On comprit bien vite qu'elle ne pourrait avoir lieu à l'heure dite et quelques impatients manifestaient déjà leur mécontentement lorsque les policemen leur apprirent qu'il ne s'agissait que d'un retard de quelques heures et que ce retard était causé tout simplement par la nécessité où s'était trouvé le bourreau de se transporter avec ses aides et son matériel de Canton à Hong Kong. Ils ajoutèrent que l'opération aurait lieu sans faute à 7 heures du soir. Satisfaite de ce renseignement, la foule se retira tranquille. Elle ignorait ce que Ming lui-même ne savait pas, c'est-à-dire la seconde visite que Perkins avait faite à Rumi le lendemain de cette nuit où il l'avait présenté à l'exécuteur. Or, dans cette seconde visite, voici ce qui avait été conclu entre le capitaine et le lugubre personnage, moyennant un nouveau sac de piastres, bien entendu. Rumi avait promis qu'au lieu d'être à Hong Kong au lever du jour, ainsi qu'il en avait reçu l'ordre, car l'exécution était commandée pour midi, heure de la suspension des travaux, afin que les marins et les ouvriers puissent y assister, il s'y prendrait de façon à ne pas être exact, en sorte qu'on serait obligé de retarder le supplice des condamnés jusqu'au moment du repos du soir, et il avait tenu sa parole au risque de ce qui pouvait en résulter. Il s'était dit que la somme déjà reçue et celle qui lui était encore promise valait certainement bien quelques coups de bambou, auxquels d'ailleurs il espérait échapper grâce à la protection de ses complices. Pendant ce temps-là, Perkins poursuivait, avec Sir Arthur Murray et le docteur Clifton, l'œuvre mystérieuse dont le président s'était fait l'auxiliaire sans y rien comprendre. La veille au soir, le contrebandier et ses deux amis, munis d'une autorisation en bonne forme, s'étaient présentés au directeur de la prison de Victoria et on les avait immédiatement introduits auprès de Peiho, qui, de même que ses compagnons, attendait sa dernière heure avec le mépris de la vie que professent tous les Chinois à quelques classes de la société qu'ils appartiennent. On avait fait au chef des pirates l'honneur d'un cachot particulier, où, dans l'espérance d'obtenir de lui quelques révélations utiles, on l'avait confié à un gardien intelligent avec ordre de le bien traiter. Cependant, malgré tous les bons procédés dont il avait usé envers lui, son geôlier n'avait pu lui arracher un seul mot intéressant, du moins en ce qui concernait l'organisation de la piraterie et le repère où se cachaient si habilement ceux qu'il exerçait dans le bas du fleuve des Perles. Deux ou trois fois seulement, lorsqu'on l'avait interrogé sur le chef qui commandait la terrible association, Peiho avait paru prêt à parler, ses yeux s'étaient injectés de sang, mais il était toujours redevenu assez maître de lui pour arrêter les paroles qui se pressaient évidemment sur ses lèvres. Néanmoins, on l'entendait murmurer souvent des mots inintelligibles qui ressemblaient à des menaces et à des malédictions. Le condamné se trouvait dans cette disposition d'esprit quand, au moment même où le brave Ming parcourait les faubourgs de Canton avec Fo Hop, c'est-à-dire dans la nuit qui devait procéder son exécution, Perkins et ses amis pénétrèrent dans sa cellule. Ainsi que nous l'avons dit, le pirate était un grand gaillard, taillé en Hercule. Ses traits étaient brutaux, mais singulièrement intelligents et énergiques. En voyant paraître les trois Anglais, il leva la tête, sans toutefois quitter la natte grossière sur laquelle il était accroupi, et il arrêta sur eux un regard en même temps inquiet et interrogateur. Clifton fit un signe au gardien, et celui-ci, après avoir déposé sa lanterne sur un escabeau, sortit en fermant la porte derrière lui. Le docteur, Sir Arthur Murray et le capitaine étaient seuls avec l'ancien chef de Wang Mu. « Peiho, lui dit aussitôt Clifton, tu sais que tu seras pendu demain. » « Je le sais, » répondit le prisonnier d'une voix sombre. « Veux-tu vivre ? Oh, vivre, pourquoi faire ? Que sais-je, pour aimer ou te venger ? À ton âge, on aime ou on hait toujours quelqu'un ?» À l'expression que prit aussitôt la physionomie du misérable, le médecin comprit qu'il avait deviné juste. « Écoute, poursuivit-il, Tu as supporté la torture sans jeter un cri, et malgré la promesse qu'on t'a faite de la vie, tu n'as pas voulu parler.
Oui, c'est vrai.
Et pourquoi?
Parce que je ne veux pas livrer aux étrangers les secrets de l'association.
Ce n'est point le motif là de ton silence.
Il n'y en a pas d'autre.
C'est faux. Nous en savons autant que toi sur le lys d'eau. Ce qu'on te demandait seulement, c'était la preuve de l'accord tacite qui existe entre les pirates et les autorités de la province. Le nom de celui qui t'a remplacé à la tête de tes hommes et la désignation de celle des îles Ladrones, qui est leur refuge, ainsi que des renseignements exacts sur ses atterrages.
Mais on voulait aussi que je servisse de pilote à l'expédition que vous projetez.
Oui, et en échange de tes bons offices, on t'a offert non seulement ta grâce, mais aussi la liberté, l'impunité et 1000 piastres. Et cependant, tu as refusé.
J'ai refusé.
Je vais te dire pourquoi. C'est que tu as craint que le gouverneur de Hong Kong ne tînt aucune de ses promesses et qu'au retour de l'expédition, il ne te fît pendre.
Oh, peut-être est-ce pour cela?
Clifton venait de lire une seconde fois dans le cœur du condamné, car, tout en répondant d'un ton indifférent en apparence, il n'avait pu retenir un mouvement de surprise. « Eh bien, continua le docteur, je vais t'offrir un moyen de ne pas être trompé. »«
Lequel ?»«
C'est de ne parler qu'après ton exécution. » »«
Après mon exécution, je ne comprends pas. »
Peyou pensait avoir mal entendu ou que son interlocuteur, qui se servait de la langue macaïste, avait employé une expression rendant sa pensée d'une façon inexacte. « Je vais être plus clair. Demain, tu seras pendu. Veux-tu t'engager sur la mémoire de ton père, à nous révéler ce que nous désirons savoir, mais seulement lorsque tu seras descendu du gibet ?»«
Lorsque je serai mort ?»«
Oui, après avoir été pendu ?» Ne pouvant pas croire que les trois hommes à la physionomie grave auxquels il avait affaire puissent songer à se jouer de lui dans une circonstance aussi terrible, le pirate promenait ses regards effarés de l'un à l'autre, dans l'espoir sans doute qu'il allait lire quelques suppléments d'explication sur leur visage. Mais, ainsi que le médecin, Sir Arthur Murray et Perkins étaient impassibles. « Que risques-tu ? » lui fit observer Clifton.
Rien, c'est vrai. Enfin, que voulez-vous?
Tout simplement que tu respires ce flacon.
Et si cela me tue?
Eh bien, tu es brave. Mourir pour mourir. Qu'est-ce que cela te fait que ce soit ce soir ou demain à midi?
Alors, si je respire ce flacon,
tu seras pendu, mais tu ne mourras pas. Du moins, si tu veux nous faire le serment que je te demande, et avoir en nous pleine et entière confiance. » Peyo laissa tomber sa tête entre ses mains, et pendant quelques secondes, parut hésiter. Puis il se décida tout à coup, et lorsqu'il leva de nouveau les yeux sur ses visiteurs, ses traits avaient repris toute leur énergique expression.
« Soit, dit-il, j'accepte. Je vous jure sur la mémoire de mon père qu'après avoir été pendu, je vous dirai tout ce que vous désirez savoir. Vous ferez de moi ce que vous voudrez. »
Il saisit le petit flacon de cristal que le docteur lui présentait et le respira longuement. Moins de 5 minutes après, il était étendu, sans mouvement, sur la natte qui lui servait de lit, et une demi-heure plus tard, Sir Arthur Murray Perkins sortait de son cachot en y laissant Clifton, qui devait y passer une partie de la nuit. Le lendemain, un peu avant midi, lorsque le directeur de la prison vint visiter son pensionnaire, qu'il pensait devoir envoyer dans quelques instants au gibet, il le trouva accroupi, fumant tranquillement, et prêt à mourir avec l'indifférence ordinaire de ses compatriotes. Le contrebandier et le gentilhomme anglais qui accompagnaient le fonctionnaire échangèrent un sourire de satisfaction et, remontant sur leurs chevaux qui les attendaient dans la cour, ils gagnèrent au petit trot le lieu des exécutions. Nous avons dit plus haut ce qui s'y était passé. Au moment où les deux amis y arrivèrent, la foule s'était retirée. Le sinistre champ était à peu près désert, mais on y remarquait un groupe qui s'y était formé depuis peu. Perkins n'eut besoin que d'un coup d'œil pour reconnaître le bourreau et ses hommes. Rumi, au contraire, ne parut pas se rappeler le visage du capitaine. Il continua à diriger les travaux de ses ouvriers. Quelques-uns assemblaient les charpentes destinées à former les cinq potences en forme de T, à chacune desquelles devaient être suspendus deux condamnés. Les autres creusaient en terre les trous profonds où devaient s'enfoncer les pieds des gibets. Convaincu que les choses allaient marcher régulièrement selon les conventions avec l'exécuteur, Perkins rendit les rênes à sa monture et bientôt, toujours accompagné de l'inséparable Sir Arthur, il rentrait à sa villa où il s'empressait de réveiller Ming, qui s'était endormi d'un de ces sommeils agités que lui donnait l'existence troublée qu'il menait depuis 15 jours. Tout d'abord, il poussa un cri de terreur, mais dès qu'il eut reconnu son hôte, son beau gros visage prit une expression de soulagement difficile à peindre. « Ah, c'est vous enfin, mon ami, lui dit-il. Vous attendez bien impatiemment. »« En dormant ?» fit l'anglais avec un sourire. « Oh, je dormais avec impatience, je vous assure. Ah, c'est que j'ai du nouveau à vous apprendre. Mais décidément, vous êtes sorcier. » « Comment cela ?»« Vous avez deviné juste relativement à l'assassin de Ting Tang Long. » Qu'est-ce donc ? Un voisin du Madame Liu. Chou, le boucher de la rue des Égbatteurs d'or, celui qu'on avait surnommé l'araignée rouge. Bien, vous voyez que j'avais raison. Qui vous a si bien renseigné ? Madame Liu elle-même. Et il raconta longuement tout ce qu'il tenait de la mère de Saul Brodet. Puis il passa à sa campagne nocturne dans les rues de Canton, en compagnie du préfet de police, et il exagéra si bien les dangers qu'il avait courus que Perkins, qui connaissait de longue date sa bravoure, ne put s'empêcher de plaisanter un peu à certains passages de son récit. C'eût été bien autre chose si Ming lui avait rapporté le dénouement subit de son excursion sur le lit moelleux de la maison aux plumes de poule, mais il s'en garda avec soin. Seulement, termina-t-il en poussant un énorme soupir, l'en suis-je plus avancé. Je connais, oh, il est vrai, le nom du coupable, mais du diable si je sais où le trouver. Patience, monsieur le président, patience, dit Arthur. La moitié de la besogne est faite, le reste viendra tout seul. « Oui, peut-être, mais en attendant, la moitié et plus du temps que j'avais devant moi s'est écoulé. Et vous, capitaine, où en êtes-vous avec votre pendu ? Il devait y avoir un monde fou à cette exécution. Oh, je suis vraiment enchanté d'être arrivé trop tard. »« Mais vous n'êtes pas arrivé trop tard. L'exécution n'a pas eu lieu. Que me dites-vous là ? Ben, la vérité. » Les condamnés étaient prêts, seulement, il manquait le bourreau, ses aides et les potences. Alors Rumi s'est moqué de nous, son affaire est claire, celui qui sera pendu. Oh, pas si vite, interrompit Perkins. Rumi ne s'est moqué de personne. Il a été un peu en retard, voilà tout, mais ce soir, à 7 heures, il fera très proprement sa besogne, soyez-en certains. Pour la réussite de nos projets, il est préférable qu'il en soit ainsi. Par conséquent,
ne lui en veuillez pas trop. Soit, oh, il faut toujours faire à votre guise. Cependant, vous savez que je compte sur vous pour trouver mon assassin, maintenant que je sais son vrai nom. Il s'est entendu. Allez, en attendant, mettons-nous à table. Le mandarin, dont ces deux mots « à table » avaient le privilège de dissiper tous les soucis, ne répondit qu'en prenant le bras de l'anglais, et on passa dans la salle à manger. Quelques instants après, tout un savoureux coulis de gibier, le gourmand personnage avait oublié Saul Brodet, Chou, les pirates et même ses 100 coups de bambou. Il fit si complètement honneur au repas du capitaine qu'à 6 heures, lorsque celui-ci l'avertit qu'il était temps de partir s'il voulait assister à l'exécution, il lui répondit, en croisant les mains sur sa large poitrine, « Oh, je vous en prie, mon bon et cher ami, n'exigez pas cela de moi. Je suis un homme doux, ce spectacle-là me désole. De plus, je suis si bien dîné que je désire éviter toute émotion pénible. » Et se traînant jusqu'à un large fauteuil de cuir qu'il caressait depuis quelques moments d'un œil d'envie, le président de la cour criminelle de Canton s'y laissa tomber à la renverse en fermant les yeux. « À votre aise, mon brave Ming, tout à votre aise, » répondit le commandant de l'éclair. « J'ai d'ailleurs pas besoin de vous pour aller là-bas. Alors, attendez-nous en rêvant. » Oh, c'est cela, ça vaudra beaucoup mieux. J'ai le cœur trop sensible pour voir souffrir ces pauvres gens. Ah, Perkins, vous avez un cuisinier bien remarquable. L'Europe a décidément du bon. L'Angleterre est un grand pays. Oh, moins grand que la Chine, mais un grand pays, néanmoins très grand. L'honorable fonctionnaire commençait à ne plus savoir ce qu'il disait. La reconnaissance de l'estomac luttait en son esprit avec le patriotisme. « Partons, » dit Sir Arthur au contrebandier, « nous n'avons plus une seconde à perdre. » C'était bientôt l'heure, en effet, à laquelle Clifton avait donné rendez-vous à ses compatriotes pour assister au départ des condamnés. Ils serrèrent la main au sensuel magistrat en lui souhaitant bonne digestion et sortirent. Après moins d'une demi-heure de marche, ils franchirent les murs d'enceinte de la ville pour arriver à la prison en même temps que les lanciers du Bengale qui étaient commandés pour escorter les pirates. Les malheureux savaient depuis le matin qu'ils allaient être conduits au supplice d'un instant à l'autre. On venait de leur annoncer que le moment fatal était proche. Comme ils devaient être pendus, on leur faisait grâce du mode de transport employé pour les condamnés à la décapitation, qu'on emportait dans des cages en rotin où, accroupis et la tête passant par une ouverture ménagée du couvercle, ils étaient libres de suivre du regard les scènes sanglantes qui se déroulaient devant eux jusqu'à ce que leur tour de mourir fût venu. Cette fois, sans coiffure et tout simplement les mains liées derrière le dos, ils attendaient dans la cour, impassibles. Peyo, seul, avait quelque chose d'inquiet et de troublé. Ses yeux étaient moins brillants que de coutume. On eût dit non qu'il avait peur, mais qu'il souffrait. Au lieu de porter la tête haute, comme il l'avait fait devant ses juges, il la laissait tomber sur sa poitrine. Il était évidemment sous l'empire d'une pensée absorbante, car lorsqu'il entendit le signal du départ, il tressaillit. Mais il se remit aussitôt, et comme ses compagnons, il quitta la prison d'un pas ferme. Une fois dehors, les pirates se placèrent deux par deux au milieu des cavaliers, et sur un ordre de l'officier, le cortège s'ébranla. Ils ne mirent pas moins de 25 à 30 minutes pour atteindre le lugubre champ au milieu duquel les 5 potences dressaient vers le ciel leurs squelettes sinistres. La foule y était immense.
Un double cordon de troupes ne la maintenait qu'avec peine en dehors du large espace où attendaient le bourreau et ses aides. Elle ouvrit ses rangs aux condamnés en les saluant de mille hurrahs cruels. Le crépuscule approchait. La brise qui s'était élevée balançait au-dessous des gibets les cordes graissées et terminées par des nœuds coulants. Le silence s'était fait subitement. Les assistants ne voulaient perdre aucun détail de l'épouvantable spectacle. Chaque couple de pirates avait été conduit au pied de la potence où il devait être pendu. L'exécuteur n'ayant que quatre aides, l'opération devait se faire en plusieurs fois. C'était un drame en cinq actes qui était offert à la colonie anglaise. Peio et son compagnon de mort avaient été menés au pied du dernier gibet de droite, et c'est par la gauche que la hideuse cérémonie commença, mais avec des lenteurs inaccoutumées qui soulevaient les murmures du public. Cependant, deux des bandits quittèrent le sol, et la foule les salua par des cris frénétiques. Rumi et ses hommes poursuivirent leur horrible tâche, et à peine un quart d'heure plus tard, les dix condamnés râlaient entre la terre et le ciel. Il était temps d'ailleurs que tout fût terminé, car la nuit n'allait pas tarder à venir. Après la pendaison du dernier supplicié, le peuple se retira fort impressionné, et bientôt il ne resta plus sur le lieu de l'exécution que l'officier et les soldats qui avait mission de veiller sur les corps pendant la demi-heure réglementaire qui devait rester suspendue. Rumi et ses aides s'étaient accroupis sur l'herbe. Il leur restait, pour finir leur triste besogne, à transporter les cadavres au cimetière, où la fosse commune était ouverte depuis la veille pour les recevoir. En attendant, c'était un fantastique tableau que celui qu'offraient ces deux groupes silencieux au-dessous de ces morts que le vent balançait dans l'espace et dont les silhouettes se dessinaient sur l'horizon rougi par le coucher du soleil. Peu soucieux d'en faire plus que ne lui commandait sa consigne, le chef de l'escorte, qui avait plusieurs fois interrogé sa monstre, donna enfin le signal du départ. Les cavaliers se hâtèrent de se reformer en peloton et bientôt ils disparurent dans l'ombre du côté de la ville. Le bourreau et ses hommes étaient déjà debout. Rumi courut d'abord au gibet de Peio qu'il descendit doucement à terre où il s'affaissa inerte. Il entendit au même moment le bruit d'une voiture qui s'arrêtait à quelques pas de là derrière un massif. Ses auxiliaires avaient suivi son exemple, les dix corps gisaient sur le sol. « Courez chercher les civières !» leur commanda-t-il. « Finissons-en rapidement !» Tous s'éloignèrent pour exécuter l'ordre de leur sinistre patron. La nuit était complètement tombée, nuit sombre, sans étoiles, bien faite pour l'œuvre étrangement mystérieuse qui s'accomplissait sous ses voiles. « C'est bien, tu as tenu tes promesses !» dit soudain une voix qui fit tressaillir l'exécuteur. Il se retourna et reconnut aussitôt Perkins, qui n'avait pas vu venir. Il était accompagné du docteur Clifton. « Tiens !» poursuivit le contrebandier, « voici le reste de la somme. Nous allons maintenant emporter Bayo. Où est-il ?» Après avoir glissé dans sa ceinture la lourde bourse que son interlocuteur lui avait remise, Rumi conduisit les deux Anglais au pied du gibet où était étendu le chef des pirates. Là, Perkins souleva le corps par les pieds pendant que son ami le prenait par les épaules et ils le transportèrent ainsi jusqu'à un grand omnibus de campagne que conduisait Sir Arthur. Puis ils le couchèrent doucement sur des coussins disposés au fond de la voiture, prirent place auprès de lui, et le gentilhomme, qui sans doute avait ses instructions, rendit aussitôt la main à son attelage. Le bourreau, que cette étrange aventure inquiétait fort, quoiqu'il eût reçu le prix de sa complaisance, les suivit quelques instants des yeux, autant du moins que l'obscurité le lui permit, et il revint ensuite à son poste, où ses hommes étaient déjà de retour. Comme ils enlevèrent les cadavres un à un, ils ne s'aperçurent pas de la disparition de celui de Peyo. 2 heures plus tard, il ne restait plus d'autres traces de l'exécution que les charpentes des gibets autour desquelles dormaient d'un profond sommeil les lugubres opérateurs. Pendant ce temps-là, le capitaine et ses amis étaient rentrés à la villa, où ils avaient placé le pendu dans la salle de billard sur un large et moelleux divan. Clifton était penché sur lui depuis plusieurs minutes déjà, lorsqu'il se releva, le sourire aux lèvres. « Eh bien, lui demandèrent en même temps ses deux compatriotes. « Oh, c'est pas fait. Rumi ne nous l'a pas trop abîmé. Quel admirable sujet. Mais regardez-moi ce gaillard-là. » L'ex-chef des pirates était en effet un superbe spécimen de la race jaune. Grand, bien découplé, c'était certainement, comme le disait le docteur, avec le scepticisme du savant, un sujet précieux pour un amphithéâtre. Il ne donnait aucun signe de vie, mais les traits de son visage n'étaient pas aussi contractés que le sont d'ordinaire ceux des individus morts par strangulation. Il était évident qu'il avait dû peu souffrir. « Si maintenant vous alliez chercher Ming, fit observer Sir Arthur au commandant de l'éclair. « Oh tiens, c'est vrai !» répondit celui-ci, « je l'avais oublié !» Et il sortit précipitamment pour passer dans la salle à manger. Tout entier à sa laborieuse digestion, le gros mandarin ronflait comme une toupie d'Allemagne sur le fauteuil où il s'était réfugié après le dîner. « Allons, debout, mon cher président !» lui dit Perkins en le frappant à l'épaule. « Hein, quoi ?» fit le sybarite en soulevant avec lenteur ses paupières alourdies. « Oh, c'est vous! Est-ce que vous l'avez trouvé ?»« Qui ça ?»« Tchou, le boucher, la araignée rouge !»« Oh, c'est bien de cela qu'il s'agit !»« Ah oui, c'est vrai, vous arrivez de... »« Oui, c'est fini, allez, venez avec moi !»« Avec vous, pour quoi faire ?» Vous vous rappelez que j'ai acheté à Rumi l'un de ses pendus. Oh oui, je me suis même demandé 20 fois dans quel but. Mais vous allez le savoir, il est là. Comment là? Vous l'avez amené chez vous, auprès de votre salle à manger, où on dîne si bien? Le paresseux fonctionnaire s'était dressé d'un seul bond, comme si la stupéfaction lui eût rendu subitement toute l'élasticité de sa jeunesse. « Parfaitement, » poursuivit son hôte. « Vous allez voir, il est vraiment très beau. » Il le prit par le bras et l'entraîna un peu de force dans la salle de billard. Sir Arthur avait allumé des flambeaux. La lumière frappait en plein le visage du supplicié. Ses yeux étaient fermés et sa bouche entr'ouverte laissait voir ses dents blanches aiguisées comme celles d'un fauve. Sa physionomie était calme, et ses chairs ne semblaient pas encore atteintes par la rigidité et le froid de la mort. Mais on distinguait facilement autour de son cou le sillon bleuâtre de la corde du gibet. Ça et là, la peau était même déchirée. Ming s'était avancé tout près du divan et examinait avec curiosité cet homme qu'il avait envoyé à la potence. À ce moment, Clifton, qui venait de préparer une potion dans un verre, se pencha vers le pendu et lui enleva adroitement du cou un petit tube d'argent recourbé qui y était enfoncé en entier, en dessous de ce relief qu'on appelle vulgairement la pomme d'Adam. Puis il mit le doigt sur la plaie en forme d'étroite boutonnière d'où sortait cet instrument, et aidé de Sir Arthur, il souleva Peyo pour l'asseoir sur le divan. Alors, tout à coup, l'honorable président de la cour criminelle jeta un cri de terreur et fit un saut en arrière. Le pirate venait d'ouvrir les yeux. Un profond soupir était sorti de sa poitrine. Ses regards vitreux allaient de l'un à l'autre de ceux qui l'entouraient. Lorsqu'ils s'arrêtèrent sur Ming, qui ne reconnaissait certainement pas, celui-ci ne fut plus maître de son épouvante et fit un mouvement pour s'enfuir. « Êtes-vous donc fou ?» lui dit Perkins en l'arrêtant au passage. « Il ressuscite !» murmurait l'infortuné mandarin qui tremblait. « Il ressuscite !»« Je l'espère bien. Si vous vous imaginez que c'était pour le laisser mettre en terre, que je l'ai acheté 100 livres sterling. » Ming, ne comprenant plus rien, se laissa reconduire auprès du divan où Peyo revenait doucement à la vie. Après avoir fait boire quelques gouttes d'un puissant cordial, Clifton avait posé sur sa blessure un appareil qui la mettait à l'abri de l'air et du toucher. L'opération de la trachéotomie qu'il avait pratiquée sur le condamné avait complètement réussi. Sa guérison n'était qu'une question de 2 ou 3 jours à peine. Mais le brave magistrat, qui n'avait pas idée de rien de semblable, mettait ce qui se passait sur le compte de la magie et du sortilège. « Alors, il n'est pas mort ?» se hasarda-t-il enfin à balbutier. « Comment te trouves-tu » demanda le médecin au pirate, au lieu de répondre à son interlocuteur. « Bien, » murmura le revenant d'une voix faible, mais parfaitement distincte. Le pauvre paysan leva les yeux au ciel, puis, incapable de dire un seul mot tant la stupéfaction lui coupait la parole, il saisit sa tête à deux mains comme pour empêcher la raison de s'en échapper. « Tu vois que nous avons tenu nos promesses, » dit à son tour Perkins à Peyo. « Tu peux maintenant tenir les tiennes. Tu ne parleras vraiment qu'après avoir été pendu. »« Oui, » fit le ressuscité, dont les lèvres esquissèrent un sourire étrange. « Dans 48 heures, tu seras aussi bien portant qu'hier. Tu nous serviras alors de pilote pour nous conduire au ladrone ?»« Bon, vous le jurez ?» « Et tu nous diras quel est celui qui te remplace à la tête du lys d'eau ?»« Ben c'est l'araignée rouge !» En prononçant ce nom, le bandit s'était à ce point animé que Clifton fut obligé de lui mettre la main sur l'épaule pour l'empêcher de faire un trop brusque mouvement. « L'araignée rouge ! Que dit-il ? » interrogea Ming en se rapprochant vivement. « Oui, l'araignée rouge, Chou, l'ancien boucher de Funsin !» répéta Peyo, qui referma les yeux, épuisé par cet effort. « Vous avez entendu, Perkins ?» s'écria le mandarin, passant subitement de la stupéfaction à la joie, comme il avait passé peu d'instants auparavant de la terreur à la stupéfaction. « Vous avez entendu, mon ami, mon cher ami ?» « Parfaitement, » répondit le capitaine. Mais nous savons où est mon assassin, ou plutôt l'assassin de Ling. C'est le chef de ces misérables qui sont vos ennemis, à vous aussi comme à moi. » Et rien de plus exact. Vous voyez que notre marché avec Rumi n'était pas une trop mauvaise affaire pour vous. Il ne s'agit plus que de prendre votre homme. Par Bouddha, mais c'est vrai. Mais maintenant, il faut le prendre. » Cette observation était tombée comme une douche glacée sur son exaltation joyeuse.
Mais c'est pour arriver à ce résultat que vous intéresse autant que moi. Je crois bien, tout autant et même plus, que vous allez user de toute votre influence. Laissons le docteur avec son client et passons dans la salle à manger. Je vais vous apprendre ce que vous devez faire. Il ne va pas mourir une seconde fois, au moins, demanda le gros juge en jetant sur Peyo un regard plein d'affectueux intérêt. Oh non, on ne cognait rien. Et prenant le bras de son digne ami, Perkins retourna avec lui dans la pièce voisine. Vous voyez où nous en sommes, lui dit-il, après lui avoir fait servir le sherry qu'il avait demandé pour se remettre de toutes ses émotions. Vous connaissez d'aujourd'hui le nom et la retraite de votre meurtrier. Il ne s'agit plus que d'obtenir du prince Kong l'autorisation de le faire saisir au ladron. Nous n'avons besoin ni de ses jonques ni de ses soldats, qui nous permettent d'exécuter cette campagne nous-mêmes, et je vous réponds du succès. Nous ferons ainsi d'une pierre deux coups. Nous vous livrerons votre coupable et nous nous nettoierons ce repère que votre gouvernement doit attaquer. Bon, ben, vous pourrez être de l'expédition. Oui, certes, bégaya Ming, qui n'osait refuser, ne sachant si son hôte plaisantait ou parlait sérieusement. Ainsi, vous partirez demain au point du jour avec la marée montante. Faites remarquer votre embarcation par le bateau à vapeur jusqu'à Whampoa. Cela vous permettra d'arriver de bonne heure à Canton et de voir le vice-roi le jour même. Oui, c'est entendu, il n'y a pas de temps à perdre. Bon, alors allez vous reposer. Moi, je vais rendre une dernière visite à notre ressuscité. Bon voyage, car je ne vous enverrai pas avant votre départ. Je serai à la factorerie dans 2 ou 3 jours, dès que notre futur pilote sera complètement rétabli. Bon, soignez-le bien, au moins, ce cher Peyo. C'est égal, tout cela est bien extraordinaire. Un pendu qui ne l'est pas. Ce satané boucher, ce misérable assassin. Quand j'apprends son nom, on ignore où il se cache. Et lorsque j'apprends où il se cache, il faut que ce soit dans un endroit inabordable. Oh, je vais passer encore une bien mauvaise nuit. Et après avoir serré les mains du capitaine, le malheureux président de la cour criminelle se dirigea en soupirant vers la chambre qu'on lui avait fait préparer dans la villa.